Nous avons de diverses et curieuses horloges.
J'avais retrouvé le contrôle de mes nerfs et de mon imagination. Il fallait que je joue avec ironie, comme j'avais joué jusqu'à quelques jours avant, sans me prendre au jeu. J'étais dans un musée, et il fallait que je sois dramatiquement rusé et lucide. Je regardais avec familiarité les avions au-dessus de moi. J'aurais pu grimper dans la carlingue d'un biplan et attendre la nuit comme si je survolais la Manche, savourant d'avance la Légion d'honneur. Les noms des automobiles au sol me paraissaient affectueusement nostalgiques. Hispano-Suiza, 1932, belle et accueillante. À exclure, parce que trop près de la caisse. Mais j'aurais pu tromper l'employé si je m'étais présenté en knickerbockers, cédant le pas à une dame en tailleur crème, une longue écharpe autour de son cou filiforme, un mignon chapeau cloche sur une coupe à la garçonne. La Citroën C64-1931 ne s'offrait qu'en section, bon modèle scolaire mais cachette dérisoire. Même pas la peine de parler de la voiture à vapeur de Cugnot, énorme, carrément une chaudière, ou une marmite si on veut. Il fallait regarder sur le côté droit, le long du mur, où se trouvaient les vélocipèdes aux grandes roues florales, les draisiennes au cadre plat, genre patinette, évocation de gentleman en haute forme qui trottine à travers le bois de Boulogne, cavalier du progrès. Face aux vélocipèdes, de bonne carrosserie, réceptacle gourmand, peut-être pas la Panhard d'Inavia 1945, trop transparente et étroite dans sa forme aérodynamique, mais sans nul doute digne de considération la haute Peugeot C6G. Une mansarde, une alcôve. Une fois dedans, enfoncé dans les divans de cuir, personne n'aurait plus soupçonné ma présence. Difficile de m'y hisser, cependant. Un des gardiens était assis juste devant, sur un banc, le dos au bicycle. Monté sur le marchepied, un peu gêné par mon manteau à col de fourrure, tandis que lui, guêtre au mollet, casquette à la main, m'ouvre obséquieux la portière. Je me concentrai un instant sur l'obéissante, 1873, premier véhicule français à traction mécanique pour 12 passagers. Si la Peugeot était un appartement, j'avais devant les yeux un immeuble. Mais pas question de penser y pouvoir accéder sans attirer l'attention de tout le monde, de même qu'il est difficile de se cacher quand les cachettes sont les tableaux d'une exposition. Je traversai de nouveau la salle. La statue de la Liberté se dressait, éclairant le monde, sur un socle de presque 2 mètres, conçu comme une proue, avec un rostre coupant. Elle dissimulait à l'intérieur une sorte de guérite, par où on avait vu, droit devant, à travers un hublot, sur un diorama de la baie de New York. Bon poste d'observation quand viendrait minuit. Avec cette possibilité de dominer dans l'ombre le cœur à gauche et la nef à droite, le dos protégé par une grande statue de Graham en pierre, qui regardait vers d'autres couloirs, placée qu'elle était dans une sorte de transept. Mais en pleine lumière, on voyait très bien si la guérite était habitée. Et un gardien normalement constitué y aurait jeté tout de suite un coup d'œil, par acquis de conscience, une fois les visiteurs évacués. Je n'avais pas beaucoup de temps. On allait fermer à 5h30. Je pressai le pas pour revoir le promenoir. Aucun des moteurs ne pouvait fournir un refuge. Pas même à droite, les grands appareils pour navires, reliques de quelque Lusitania, engloutis par les eaux, ni l'immense moteur à gaz de Lenoir, avec sa variété de roues dentées. Non, mais plutôt maintenant que la lumière diminuait et pénétrait, aqueuse à travers les vitraux gris, j'étais de nouveau saisi par la peur de me cacher parmi ces animaux et de les retrouver ensuite dans le noir, à la lumière de ma torche électrique, rainé dans les ténèbres, haletant d'une lourde respiration tellurique, os et viscères sans plus de peau, crissants et puants de bave huileuse. Au milieu de cette exposition, que je commençais à trouver immonde d'organes génitaux diesel, de vagins à turbines, de gorges inorganiques qui en leur temps éructèrent, et peut-être cette nuit même éructeraient de nouveau des flammes, des vapeurs, des sifflements, ou bourdonneraient, indolents comme des cervelants, craqueteraient comme des cigales. Parmi ces manifestations squelettiques d'une pure fonctionnalité abstraite, automates capables d'écraser, scier, déplacer, casser, tronçonner, accélérer, enrayer, déglutir à explosion, octer les cylindres, se désarticuler comme des marionnettes sinistres, faire rouler des tambours, convertir des fréquences, transformer des énergies, tournoyer des volants. Comment aurais-je pu survivre? Ils m'auraient affronté, poussés par les seigneurs du monde qui les avaient voulus pour parler de l'erreur de la création, dispositifs inutiles, idoles des maîtres du bas univers, comment aurais-je pu résister sans vaciller? Il fallait que je m'en aille. Que je m'en aille. Tout était une pure folie et j'étais en train de tomber dans le jeu qui avait fait perdre la raison à Jacopo Belbo, moi, l'homme de l'incrédulité. Je ne sais pas si l'autre soir, j'ai bien fait de rester. Sinon, je connaîtrai aujourd'hui le début, mais pas la fin de l'histoire. Ou bien je ne serai pas ici, comme je le suis à présent, isolé sur cette colline, tandis que les chiens aboient au loin, là-bas dans la vallée, à me demander si c'était vraiment la fin, ou si la fin doit encore venir. J'ai décidé de continuer. Je suis sorti de l'église en prenant sur la gauche, à côté de la statue de Graham, et en empruntant une galerie. J'étais dans la section des chemins de fer. Les modèles réduits multicolores de locomotives et de wagons me semblèrent des jouets rassurants. Morceaux d'une Bingodie pour Pinocchio, d'une Hollandaise Madurodam, d'une Italie en miniature, d'une Mirapolis. Je m'habituais maintenant à cette alternance d'angoisse et de familiarité. Terreur et désenchantement. Au vrai, n'est-ce pas là un début de maladie? Et je me dis que les visions de l'église m'avaient troublé, parce que j'y arrivais sous le charme des pages de Jacopo Belbo, que j'avais déchiffré au prix de 1000 manigances énigmatiques, et que pourtant je savais fictive. J'étais dans un musée de la technique, me disais-je. Tu es dans un musée de la technique, une chose honnête, peut-être un peu obtuse, mais un royaume de mort inoffensif. Tu sais comment sont les musées, personne n'a jamais été dévoré par la Joconde, monstre androgyne, méduse pour les seules esthètes. Et tu seras encore moins dévoré par la machine de Watt, qui ne pouvait épouvanter que les aristocrates océaniques et néo-gothiques, raison pourquoi elle apparaît si pathétiquement compromissoire. Toute fonction et élégance corinthienne, manivelle et chapiteau, chaudière et colonne, roue et tympan. Jacopo Belbo, fût-ce de loin, cherchait à m'entraîner dans le piège hallucinatoire qu'il avait perdu. Il faut, me disais-je, se conduire en scientifique. A-t-on vu le vulcanologue brûler comme un empédocle? Fraser, fuyait-il traqué dans les bois de Némi? Allez, tu es Sam Spad, d'accord? Tu dois seulement ratisser les bas-fonds, c'est le métier. La femme qui t'a mis le grappin dessus, elle doit mourir avant la fin, et si possible par Tézig. Bye bye, Emily. Ça a été beau, mais t'étais un automate sans cœur. Le hasard veut cependant que, à la galerie des transports, fasse suite le hall de Lavoisier, donnant sur l'escalier monumental qui monte aux étages supérieurs. Ce jeu de chasse sur les côtés, cette sorte d'autel alchimique au centre, cette liturgie de Macumba civilisée du XVIIIe siècle, n'était pas un effet de disposition fortuite, mais stratagème symbolique, au contraire. En premier lieu, l'abondance des miroirs. S'il y a un miroir, c'est un stade humain. Tu veux te voir. Et là, tu ne te vois pas. Tu te cherches. Tu cherches ta position dans l'espace où le miroir te dise « tu es ici et c'est toi ». Et tu te mets à souffrir énormément et à t'angoisser, parce que les miroirs de Lavoisier, qu'ils soient concaves ou convexes, te déçoivent, te raillent. En reculant, tu te trouves, puis tu te déplaces et tu te perds. Ce théâtre catoptrique avait été disposé pour t'enlever toute identité et te rendre incertain du lieu où tu te trouves. Comme pour te dire « toi, tu n'es pas le pendule ». Ni dans le lieu du pendule. Et cette incertitude s'empare non seulement de toi, mais des objets mêmes placés entre toi et un autre miroir. Certes, la physique sait te dire ce qui arrive et pourquoi. Place un miroir concave qui recueille les rayons émanant de l'objet, en ce cas un alambic sur une marmite de cuivre, et le miroir renverra les rayons incidents de façon que tu ne vois pas l'objet, avec ses contours précis dans le miroir, mais que tu en aies une intuition fantomatique, évanescente, suspendue en l'air et renversée hors du miroir. Naturellement, il suffit que tu te déplaces un tout petit peu et l'effet disparaît. Mais c'est alors que soudain je me vis, moi, à l'envers, dans un autre miroir. Insoutenable. Que voulait dire Lavoisier? Que voulaient suggérer les metteurs en scène du conservatoire? C'est depuis le Moyen-Âge arabe, depuis Halazen, que nous connaissons toutes les magies des miroirs. Valait-il la peine de faire l'encyclopédie et le siècle des Lumières et la Révolution dans le but d'affirmer qu'il suffit de fléchir la surface d'un miroir pour basculer dans l'imaginaire? Et n'est-ce pas une illusion du miroir normal, l'autre qui te regarde condamné à l'état de gaucher perpétuel, chaque matin quand tu te rases? Valait-il la peine de ne te dire que ça, dans cette salle où ne te l'a-t-on pas dit pour te suggérer de regarder tout le reste de façon différente, les vitrines, les instruments qui font semblant de célébrer les origines de la physique et de la chimie des lumières? Masques en cuir de protection pour les expériences de calcination. Sans blague. Et blague à part, le monsieur des bougies sous la cloche s'affublait de ce masque de rat d'égout, de cette parure d'envahisseur extraterrestre pour ne pas s'irriter les yeux. Oh, how delicate, docteur Lavoisier. Si tu voulais étudier la théorie cinétique des gaz, pourquoi reconstruire avec tant d'entêtement le petit éolipile? Un menu bec sur une sphère qui, chauffée, tourne en vomissant de la vapeur? Quand le premier éolipile avait été construit par Héron au temps de la gnose, comme mécanisme d'appui pour les statues parlantes et les autres prodiges des prêtres égyptiens. Et qu'est-ce que c'était cet appareil pour l'étude de la fermentation putride, 1789? Belle allusion au puant bâtard du démiurge? Une série de tubes de verre qui, d'un utérus en forme de bulle, passe à travers des sphères et des conduits, soutenus par des fourches, à l'intérieur de deux flacons, et de l'un transmettent quelque essence à l'autre par des serpentins qui débouchent sur le vide. Fermentation putride. Balneum Mariae, sublimation de l'hydrargyr. Mysterium conjunctionis, production de l'élixir. Et la machine pour étudier la fermentation encore du vin. Un jeu d'arc le cristal qui va d'Athanor à Athanor, en sortant d'un alambic pour finir dans un autre. Et c'est l'orgnon. Et la minuscule clepsydre. Et le petit électroscope. Et la lentille, et le petit couteau de laboratoire qui ressemble à un caractère cunéiforme, la spatule avec le levier d'éjection, la lame de verre, le creuset en argile réfractaire de 3 cm pour produire un homoculus à dimension de gnome, utérus infinitésimal pour clonisme infime, les boîtes d'acajou pleines de petits sachets blancs, comme des cachets d'apothicaires de village, enveloppés dans des parchemins sillonnés de caractères intraduisibles, avec des spécimens minéralogiques, à ce qu'on dit. En vérité, des fragments du suaire de Basilide, des reliquaires avec le prépuce d'Hermès Trismégiste, et le marteau de tapissier, long et mince, pour frapper le début d'un très bref jour du jugement dernier, une enchère de quintessence devant se dérouler entre le petit peuple des elfes d'Avalon et l'ineffable petit appareil pour l'analyse de la combustion des huiles, les globules de verre disposés en pétales de trèfle à quatre feuilles, plus des trèfles à quatre feuilles reliés l'un à l'autre par des tubes d'or, et les trèfles à quatre feuilles à d'autres tubes de cristal, et ces derniers à un cylindre cuivreux, et puis, à pic en bas, un autre cylindre d'or et de verre, et d'autres tubes, inclinés, appendices pendants, testicules, glandes, excroissances, crêtes. C'est ça la chimie moderne? Et c'est pour ça qu'il fallait guillotiner l'auteur, quand cependant rien ne se crée et rien ne se détruit. Ou alors on l'a tué pour le faire taire sur ce que, mine de rien, il révélait, comme Newton qui déploya les ailes de son génie, mais continuait à méditer sur la cabale et sur les essences qualitatives. La salle Lavoisier est un aveu, un message chiffré, un épitome du conservatoire tout entier, dérision de l'orgueil des esprits forts, de la raison moderne, murmure d'autres mystères. Jacopo Belbo avait raison, la raison avait tort.